L'astragale de Marseille est un bijou de l'évolution qui a su s'adapter aux conditions extrêmes de vent, de sel et d'aridité du littoral des Calanques.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chronique astragale. Je suis Manon.
Je suis Céline.
Et je suis Gaëlle.
Aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir notre deuxième invitée de l'émission. Danseuse et chorégraphe, elle a créé sa propre compagnie Hillel en 2019. Notre invitée du jour est très active dans la cité phocéenne et défend une certaine idée de la culture hip-hop, qu'elle estime indissociable de l'engagement social et citoyen. Elle a d'ailleurs été choisie par la ville de Marseille pour porter la flamme olympique, comme une reconnaissance de son action et des valeurs qu'elle porte. Il s'agit de Marina Gomez, que vous retrouverez d'ailleurs le 12 juin prochain, à l'occasion de l'inauguration de la 30e édition du Festival de Marseille. Bonjour Marina.
Bonjour.
Bonjour Marina.
Et bienvenue.
Merci d'être avec nous.
Merci à vous.
Marina, est-ce que tu as toujours aimé danser? Est-ce que la danse a été une évidence pour toi depuis ton enfance, ou est-ce qu'il y a des personnes, des figures qui t'ont inspirée?
Alors, moi j'ai commencé à danser à 4 ans, parce que j'étais un peu agitée, donc on m'a inscrite au cours de danse. Et très vite, j'ai su que ce serait mon métier, mais j'étais un peu la seule à le savoir. C'est-à-dire que dans ma famille, quand très jeune, j'ai dit que je voulais être danseuse, ça faisait beaucoup sourire. Et j'ai beaucoup entendu cette phrase, tu sais, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Ah. Et que donc, il fallait faire des études et tout ça. Mais j'ai tenu le cap, j'ai fait des études aussi. Du coup, j'ai eu deux vies comme ça, jusqu'au moment où c'est devenu mon métier.
Où ça a bifurqué.
Ouais. Et pour les inspirations en danse, pas tellement. Pas tellement parce que je crois que ma culture générale, elle était assez éloignée de la culture chorégraphique et de la culture du spectacle vivant. Donc j'ai mis un peu de temps à trouver ma place dans ça. Et c'est pour ça sûrement que j'ai créé mon truc.
Quand tu parles de culture générale qui était éloignée, c'est-à-dire de tes inspirations, de ta manière de te mouvoir, de la manière de voir les choses, parce que tu as commencé jeune. Ouais. Donc comment ça, le cheminement de tout ça?
C'est pas ma manière de me mouvoir. J'étais une très bonne élève en danse classique, en danse contemporaine. D'accord. Et tout. C'est plus, moi je viens d'une culture populaire à laquelle je suis attachée. La danse, c'est un endroit qui ouvre ses portes à des gens qui viennent de milieux et d'horizons différents, à condition de rentrer dans une espèce de schéma assez académique et de définition de la culture au sens un peu élitiste parfois, même si les institutions s'en défendent beaucoup. Et moi, je n'ai pas eu envie de rentrer dans ce schéma-là. Moi, c'est vraiment la street culture qui m'a fait grandir, autant dans la musique que dans le cinéma. Donc c'est en ça que mes inspirations en danse, finalement, moi, j'ai pas de chorégraphe à qui je voudrais ressembler.
D'accord.
Ouais, c'est intéressant. Et tout à l'heure, tu nous as parlé donc de ton parcours. Tu as suivi donc le parcours de la danse et aussi un parcours plus classique, je crois, que tu as évoqué. Qu'est-ce que tu as fait? Donc tu as poursuivi des études en même temps que la danse?
Ouais, en fait, moi, je suis allée jusqu'au master et j'ai commencé même un doctorat en psychologie. En même temps que, en fait, la danse, moi j'ai commencé par le classique, après j'ai fait un conservatoire en danse contemporaine, et entre les deux, j'ai postulé à l'École nationale du ballet de Marseille quand j'avais 13 ans. C'est un projet que j'ai vraiment construit toute seule, où j'ai appelé toute seule pour avoir les dossiers, parce que moi je voulais faire danse études, parce que j'avais compris que là, il y avait moyen. Je pouvais dire à mes parents, ouais, je vais passer mon bac, mais je vais quand même faire une vraie école de danse. Et j'ai été recalée. Et pour moi, ça a été une grande gifle, dans le sens où c'est la première fois où je me suis dit, j'ai pas ma place dans ce monde-là. Et je suis sortie de là en me disant, ok, la danse, ce sera pas pour moi. Et c'est un peu là que j'ai plongé encore plus fort dans la culture de rue, dans le rap, etc., tout en gardant quand même ma pratique de danse, mais avec un espèce de renoncement et, comment dire, d'esprit, pas de revanche, mais de... Tu sais, moi, je suis un peu fière. De vous voulez pas de moi, mais je veux pas de vous non plus. Je vais faire autrement.
Mais bravo, parce que bon, à 13 ans, dans cet âge-là critique, que ce soit au niveau hormonal, féminin, de trouver sa place. En plus, tu étais dans une famille qui te soutenait pas forcément dans tes projets comme ça. Voilà, dans tes projets artistiques. Franchement, c'est fort, quoi.
Ouais, ben, je crois que j'ai hérité de la détermination de l'immigré, tu vois. Là où mon père, lui, l'imaginait dans les études, et finalement, je l'ai tenu quand même aussi. Ce truc de je vais la construire ma place. Et je savais vraiment ce que je voulais. Et c'est aussi que la danse, au milieu de plein de tourments, c'est le truc qui m'a toujours tenue droite. Même dans les moments où j'ai pu zigzaguer, comment dire, me frotter vraiment à la rue, au quartier, tu vois. Et avec tout l'amour du monde, parce que vraiment, c'est des moments que j'ai aimé beaucoup. Mais où j'aurais pu basculer dans un parcours un peu moins... un peu plus chaotique, on va dire. Finalement, la danse, ça m'a vachement tenue. Et c'est ce qui m'a tenue aussi dans les études. Parce qu'il y avait ce truc de chez moi. OK, tu fais de la danse, tu vas à la danse, tu prends tes cours de danse, tant que l'école, ça tient. Et donc, l'école, ça a tenu. J'avais la chance d'avoir des facilités et la malchance aussi. Parce que c'est aussi pour ça que mes parents... Moi, j'ai sauté une classe. J'ai sauté le CP. Donc, très vite, j'ai eu l'étiquette de la bonne élève. En plus, j'étais l'aînée de ma famille. Qui va faire des grandes études. Donc, quand moi, j'ai dit à 14 ans, je vais arrêter les études, je vais faire de la danse, c'était inentendable. J'avais tous les espoirs. Tu vois, de l'immigration, de tout. J'avais pas le droit de foirer les études. Donc, l'un dans l'autre, finalement, ça...
Ouais, t'as réussi à trouver... Ouais.
Avec la pression de la famille, mais qui, finalement... Mon père, il me disait beaucoup, tu me remercieras plus tard. Je croyais pas, finalement, c'était vrai.
Et du coup, tes parents, aujourd'hui, ils sont très fiers de toi, je suppose.
Écoute, l'expression des sentiments et des émotions, c'est pas une grande spécialité chez moi, mais je crois que oui. Et il y a deux trucs où ils m'ont exprimé, deux ou trois. Le premier, c'était quand en hip-hop, à un moment, on a participé à un truc qu'on a appelé championnat du monde. En fait, c'est des championnats internationaux, c'est pas... Mais le mot championnat du monde, c'était il y a longtemps, c'était en 2011. Là, j'ai senti que chez moi, ça leur parlait.
Ouais, c'est parce pas, que ça a crédibilisé ouais, quelque chose.
On connaît ça, c'est comme au foot. Là, tu vas championnat du monde, tu pars en Angleterre. Donc là, j'ai senti le respect un peu là. Aussi, quand j'ai commencé à avoir des interviews, dont une ou deux, sur les médias portugais, parce que mon père, il est d'origine, enfin, il est portugais. Et donc, j'ai eu une interview RFI Portugal et tout. Et là, là aussi, j'ai senti qu'ils commençaient à me prendre au sérieux. Ensuite, ils sont venus quand on a fait le Festival de Marseille avec mes deux créations en 2023. Il y a eu, je ne sais pas, on était sold out, je crois. Il y avait 700 personnes, tout le monde debout. Genre, donc là, voilà. Et la flamme olympique aussi. Et ça, c'est ouf parce que les cousins du Portugal et tous les oncles... Genre, tout le monde était à fond sur ça. Alors que moi, franchement, la flamme olympique, je m'en battais les steaks. Genre, j'ai vraiment accepté pour faire plaisir aux gens parce que je sentais qu'autour de moi, tout le monde trouvait ça tout super.
Magnifique, ouais.
Donc, et bizarrement, j'étais là, ah ouais, donc toute l'année, je me bagarre, je fais des projets de ouf et tout, tout le monde s'en fout. Et là, je vais porter une flamme comme un flan dans un parc. Et là, tout le monde est à fond.
On sent dans ta voix que tu es quelqu'un de très déterminé et que quand tu as des projets qui te tiennent à cœur... t'y vas vraiment à fond. Moi, j'ai envie de te demander, dans tout ça, dans tout ce parcours, déjà, à quel moment tu as envie de créer ta propre compagnie et pourquoi, quel projet tu avais envie de porter avec ça?
C'est assez tard que j'ai eu envie de monter la compagnie, simplement parce que longtemps, je ne m'en suis pas senti la force, où j'avais l'impression que c'était un truc un peu impossible. Et à raison quelque part, hein, parce que c'est dur de par tout ce que ça implique, hors artistique. En fait, artistiquement, je pense que je savais assez tôt où je voulais aller. Mais monter une compagnie, c'est un autre combat en termes administratifs, financiers, etc. Et c'est en Colombie, en fait, que Hillel s'est vraiment né. Parce que, un peu avant que je parte vivre en Colombie, c'était en 2017, 2018, par là, j'ai eu envie de commencer à créer un peu des choses avec une équipe de potes. Un peu en réaction face à un chorégraphe qui nous avait recalé tous ensemble à une audition. Et on avait envie de lui montrer qu'il avait tort. Donc à la base, c'était un projet vidéo qui a lamentablement échoué parce que le vidéaste, c'est un pote à un des danseurs. Donc il a filmé que son pote. Donc je suis partie en Colombie sur cet échec en me disant quand même, ça serait bien que... Bah, qu'on puisse pousser le truc et réussir à aller au bout. Et en même temps, en Colombie, je taffais avec... une meuf de Bogota qui s'appelle Ingrid Londoño, qui est vraiment devenue très vite comme ma sœur. Elle me ressemble physiquement, on a un peu le même parcours. Et en fait, elle a sa compagnie à Bogota. Et on a commencé un duo toutes les deux. Et ce duo, je voulais qu'il soit porté par une autre compagnie pour laquelle je travaillais. Et en fait, la compagnie en question, elle ne faisait pas les choses pour nous aider. Genre, elle a dit oui, ok, je vous soutiens. Mais en fait, elle n'a ni mis un euro, ni rien du tout. Et ma pote, elle me disait, mais pourquoi t'attends après lui, en fait? Il me disait, pourquoi tu ne fais pas ta compagnie? Et moi, je dis, c'est dur, je ne sais pas, nanana. Après, j'étais à Medellin. Et là, pareil, j'ai rencontré toute une équipe de gens qui venaient d'un quartier, qui avaient zéro moyen, qui n'avaient pas le background pour faire ce qu'ils faisaient et qui le faisaient, qui vraiment mettaient beaucoup d'actions en place dans les quartiers de Medellin. Donc, je suis rentrée de Colombie en me disant, pourquoi pas moi? Et puis, plus que ça même, je dois le faire. Il faut remonter les manches, il faut qu'on le fasse. Et quand tu me demandes, c'était quoi le projet? Le projet, c'était de prendre l'espace avec nos vies, nos trajectoires, nos existences, notre culture de quartier populaire et de prendre soin des nôtres. Que l'art, donc moi, c'est un outil pour moi, la danse, le hip-hop, qu'on puisse mettre ça au service des nôtres. Parce que finalement, le hip-hop, c'est une culture qui vient de la rue. Mais dans la danse, c'est une culture qui s'est quand même assez éloignée du quartier finalement et qui bénéficie plus assez, à mon sens, aux jeunes des quartiers. Donc voilà, je suis rentrée en mode, ok, on remonte les manches, on va le faire. Et on verra bien ce qui se passe.
Et du coup, le nom comme ça de la compagnie Hillel, ça vient de quoi?
Ben, je rigole en même temps parce que ça part toujours d'un peu de blague avec nous. En fait, je sais pas si je peux le dire.
Ah si, tu veux pas le dire, ne le dis pas.
Moi aussi, je m'en fous, de toute façon, il est fâché avec moi. En fait, moi, je chorégraphie donc, pour une autre compagnie des projets jeunes danseurs.
D'accord.
Et le projet s'appelait Loun. Et Loun, ça, en arabe, ça veut dire les couleurs. Et c'est ce même chorégraphe qui nous a recalé. Donc, on s'est dit, on fait un contre-projet et on va l'appeler Moon parce que nous, on est le côté bresson, tu vois, on n'est pas les couleurs. Nous, c'est le noir et blanc, c'est le gris, il n'y a pas de couleur. Et après, on était là, mais Moon, c'est un peu claqué hein, en termes de sonorité, tu sais, c'est un peu trop évident, c'est en anglais. Donc, on a cherché sur Google Traduction, je nous revois encore hein, au fond d'une salle de danse à chercher des traductions de la lune dans plein de langues et de dialectes différents. Et on a trouvé Hillel, qui veut dire le dernier quart de lune. En arabe.
Magnifique.
Et on a bien aimé cette idée d'être le dernier.
C'est le dernier, mais de briller.
C'est du fond de la classe.
Et de briller aussi. Du coup, là, tu nous as parlé voilà, de ton parcours, de tout ce que tu fais, de tes projets, etc. Mais moi, j'aimerais bien parler de la Marina qui est maman, Marina qui est femme, qui est auto-entrepreneur. Comment tu arrives à gérer tout ça
En fait, en plus, c'est vachement lié, hein, parce que moi, quand j'ai eu mon fils, c'est le moment où je rentrais de Colombie, c'est pour ça que je suis rentrée de Colombie, parce que moi, j'étais partie pour rester là-bas. Et c'est dans un élan de lucidité, parce que moi, j'étais quand même impliquée dans des choses qui étaient relativement dangereuses, puisque l'équipe avec laquelle j'étais, qui œuvrait du coup dans des œuvres politiques et sociales dans les quartiers de Medellin, ils étaient menacés de mort de par leur engagement. Et je le vivais assez bien quand j'étais toute seule. Mais le moment où j'ai eu mon fils dans le ventre, j'ai trouvé ça presque insolent de se dire « je vais rester faire mon enfant ici alors que tous essayent de partir ». Moi, j'ai la chance de pouvoir faire grandir mon enfant dans un environnement où il serait plus en sécurité. Alors, on n'est jamais dans la sécurité totale, mais... ça serait présomptueux, en fait.
Je comprends.
Donc, j'ai décidé de rentrer. Et c'est vraiment très naïvement que je me suis dit « Ok, là, je vais avoir un bébé et tout, donc je ne vais pas pouvoir retravailler à temps plein, être salarié, etc. » Donc, je vais en profiter pour monter ma compagnie parce que j'aurai du temps et que je serai à la maison.
le congé maternité.
Exactement. Donc, quand j'étais enceinte, finalement, ça fonctionnait plutôt bien parce que j'ai pu commencer les démarches administratives pour monter l'asso, le projet, etc. Et puis, mon fils est arrivé et le truc était lancé. J'avais déjà pris des engagements. Donc, aux 4 mois de mon bébé qui ne dormait absolument pas la nuit ni le jour d'ailleurs, je partais en résidence de création.
Ah oui.
Et finalement, c'est le Covid qui m'a sauvée, moi.
Oui, parce que ça t'a permis
Ça nous a tous stoppés.
Oui.
Ça m'a permis de prendre le temps de monter administrativement le truc. Avec du recul, je me dis que c'était complètement zinzin parce que l'état de fatigue dans lequel j'étais à ce moment-là, je ne sais même pas comment j'ai fait. C'est de la survie.
Et justement, en tant que danseuse, ton rapport au corps, il a été comment? Parce que je pense que c'est le sujet des danseuses par rapport à tout ça.
Je pense que ouais, j'étais beaucoup dans le déni. En fait, pour moi, je faisais mon enfant. En plus, j'ai une césarienne, donc je m'étais dit, ok, très bien, recousu, bam, bam. Dans un mois et demi, je repars à l'entraînement et let's go. Et donc, je l'ai fait. Je l'ai fait, mais ça a été dur, ça a été... Je pense que j'ai mis 2 ans à récupérer complètement ma condition physique. Mais finalement, dans ce déni-là de « je vais danser quand même », j'ai dansé quand même. Avec du recul, je n'étais pas à mon niveau, tu vois ce que je veux dire ?
Ouais.
Mais j'ai fait les choses. Mais ça, c'est un peu une caractéristique, tu vois, de ma façon de faire. C'est moi, je vais tout droit.
Ouais, tu fonces.
Je vais tout droit et après, on voit. Mais quand, vraiment, avec du recul, quand je repense à l'épuisement dans lequel j'étais, si je fais un deuxième enfant un jour, je penserai les choses différemment. Parce que là, je vais gérer une équipe de 5 personnes, un projet, danser, récupérer ma condition physique, avoir mon minot au sein toute la journée parce que je l'allaitais. C'était un marathon, c'était dur. J'ai laissé quelques plumes, je pense. Quelques barres de vie.
Et dans ce marathon, donc en plus de ton enfant, de cette compagnie, du côté administratif et du côté professionnel sur la danse, moi j'ai l'impression que tu t'engages vraiment beaucoup socialement, que ça fait partie de ton travail et aussi même de ce que tu as envie de porter. Est-ce que tu peux nous partager une cause qui te tient particulièrement à cœur ou des actions que tu as pu mener lors desquelles tu as vraiment passé un bon moment ?
Pour moi, c'est vraiment l'ADN de Hillel qui est de faire la danse avec les jeunes des quartiers. En fait, ce qu'on fait est sur scène et en dehors. Tu vois, quand je te parle de ce truc de prendre soin les uns des autres, c'est ce qu'on fait avec la danse. Et finalement, tu vois, on le fait en milieu carcéral, on le fait dans les quartiers. Et ces moments-là où en fait, je vois les gens avec qui on travaille reprendre un peu fierté, prendre la parole et en fait juste se sentir, en fait c'est fou hein, parce que des fois ils me remercient de ouf et tout alors qu'en fait ce que je leur donne c'est juste la base, c'est un peu d'attention, c'est du respect, c'est de l'empathie,
se sentir vivre quoi.
Ouais, et ça moi ça me flingue parce que je me dis en fait c'est comme si je faisais un truc exceptionnel alors que c'est la base et je me dis c'est minot ou pas c'est minot d'ailleurs les mecs en prison c'est la même genre. On dirait que je fais un truc exceptionnel de juste les considérer comme des personnes qui méritent le même respect, la même empathie, la même tendresse que tout le monde.
Est-ce que la psychologue aide la chorégraphe et vice-versa ?
Eh ben avec, il y aurait quelques années, je t'aurais dit rien à voir. Mais maintenant, avec du recul, ouais, je pense que ce truc vraiment d'avoir du respect pour toutes les histoires, pour tous les parcours, de laisser la place à la singularité de la personne, tu vois, c'est complètement lié. Et je pense qu'il y a des outils de psychologue que j'ai développés, parce que moi je travaillais en protection d'enfance, donc c'était corset, que j'ai développé dans cette pratique-là, qui me servent aujourd'hui. Et c'est ce qui fait sûrement que nos projets, parce que moi mes projets, c'est toujours des projets qu'on dit impossibles. Tu ne pourras pas faire danser des détenus. Tu ne pourras pas. Là, tu vas dans des quartiers. C'est la classe. Chaque fois, on me dit ça. La classe du collège où laquelle tu vas, c'est la plus difficile. Méfie-toi. C'est ce mot-là qui me rend fou. Méfie-toi de lui, lui et lui. Et c'est toujours mes chouchous. Et finalement, tu vois, je pense que ces outils-là, de juste laisser la place, c'est des choses qui s'internourrissent, en fait, finalement. Je ne sais pas qu'est-ce qui vient de moi, qu'est-ce qui vient du parcours de psychologue, qu'est-ce qui vient de la chorégraphe. Mais en tout cas, la place donnée aux histoires et aux personnes, c'est la même que ce soit dans la danse ou dans la psycho pour moi.
Oui, de toute manière, la danse est thérapeutique dans tous les cas, donc ça répond
à... Et pourtant, j'ai longtemps dit que je ne voulais pas faire de la danse-thérapie, dans le sens où je ne me voyais pas intervenir dans le médico-social, tu vois. C'est une autre manière. Parce que moi, j'aime trop la danse aussi en tant que... Moi, j'aime bien quand esthétiquement, ça tient la route.
Complètement.
J'aime pas faire des... juste du social et c'est ça aussi je pense qui fonctionne, c'est que les gens là avec qui on travaille, à l'arrivée on vous met pas juste comme des guignols sur scène Zarma la kermesse, on vous amène à un niveau esthétique,
oui,
qui fait que le public il s'incline, il dit pas juste ah, bravo pour le social, bravo pour la bonne action, non, c'est mettez-leur une tarte de ce que vous êtes capable de faire et ça marche par la confiance.
C'est pas juste pour faire beau et pour rendre service.
Non, pas du tout. C'est pour mettre des tartes ouais, et esthétiques et humaines et pour grandir ensemble. Parce que ce que moi, j'en retire, ce qu'eux en retirent, c'est vraiment un truc commun. Moi, je me sens pas... C'est pas que moi qui donne, tu vois. Et souvent, on m'a dit ça aussi, c'est un truc qui me rend fou aussi. tu amènes la culture dans les quartiers et tout. Pas du tout, j'amène pas du tout la culture dans les quartiers. J'amène la culture du quartier et des gens en visibilité pour que vous, moldus, qui ne connaissez pas cet endroit, puissent l'avoir. Quoi.
Est-ce que tu as un souvenir ou un fait marquant à nous partager que tu as pu avoir auprès de ces différents publics, dans le milieu carcéral, auprès des jeunes ?
Il y en a plein. À chaque fois, le fait marquant, c'est le changement de regard du public. C'est surtout ça, moi, tu vois, ou des professeurs. Des professeurs, même des surveillants, même si c'est un peu moins... Ils le montrent un peu moins, des surveillants en milieu carcéral, par exemple, qui ne s'attendent pas à ce qu'on réussisse. J'aime bien ce truc-là, moi. Souvent, ils ne s'attendent pas à ce qu'on réussisse. Et donc, le changement de regard, tu vois, d'un professeur, de celui qui m'a dit « méfie-toi de cet élève-là », et quand ils le voient danser sur scène, et être investi, et être éminemment respectueux, c'est ça, tu vois, c'est ce changement de regard-là qui m'intéresse.
Du coup, Marina, si on parlait musique...
Parlons musique.
Est-ce qu'il y a un morceau que tu aimerais écouter là tout de suite maintenant?
Moi, celui du matin, c'est la street de Mourad et Jul, parce que pour moi, il incarne un peu le rayonnement marseillais, dans le sens où... Et la créativité de la culture populaire, parce que Jul, quelque part, après avoir été vachement décrié, dénigré, etc., il a créé un courant musical qui rayonne à l'international, qui inspire les rappeurs européens, dont Mourad. Et du coup, ce petit son-là, pour moi, il me rappelle ça, que tout est possible.
On l'écoute ?
Oh,
Marina, la musique, elle vient avant la choré ou c'est la choré qui vient avant la musique?
Dans mes créations, tu veux dire? Ouais. Ça va vraiment ensemble. En fait, moi, je co-construis les pièces avec un mec qui s'appelle Arsène Magnard. Et moi, je sais vachement ce que je veux musicalement, mais techniquement, je ne sais pas faire du tout ces trucs-là. Et lui, il capte exactement ce que je veux et il me fait de la musique comme je l'avais imaginé. Et vraiment, cette collaboration, elle est trop cool parce que les pièces, elles grandissent comme ça, tu vois, en fonction de l'envie chorégraphique. Tac, on crée le morceau. Des fois, il avance un peu plus dans le morceau et moi, ça va me guider sur la création chorégraphique derrière. C'est vraiment mon binôme. Arsène, vraiment, c'est le sang.
Top. Et il y a un son sur lequel tu as aimé danser plus particulièrement dans le cadre de tes chorés?
Ouais, je les ai tous aimés vu qu'on les crée ensemble. Ouais. Mais je crois que... j'ai hésité entre deux. Dans Bach Nord sortait les guitares. En fait, l'envie, c'était vraiment de partir de Jean-Sébastien Bach et de créer de la musique très, très actuelle, beaucoup plus que ce qui se fait en création chorégraphique. Je trouve qu'on a un temps de retard, la danse hip-hop sur la musique hip-hop, souvent. Et donc, moi, j'ai dit à Arsène, qui est plus à la base un compositeur de musique électronique, je lui ai dit, moi, je veux qu'on fasse et du son chata et de la drill. Mmh. Et donc, on a fait deux sons à partir... de samples de Jean-Sébastien Bach, un en chata et un en jersey drill. Et alors, s'il fallait que je choisisse entre les deux, je dirais le chata. Parce que tout le monde a dit... tout le monde m'a pris pour une folle. Tout le monde a cru que c'était une blague. J'ai envoyé une référence de Kalash. Je lui ai dit, écoute ce son, je veux qu'on mette ça dans la créa.
C'est quelle chanson de Kalash?
Je me demande si c'est pas celle avec Maureen.
Ah.
J'ai un petit doute.
Ouais.
Je crois que c'est Laptop.
Laptop, ouais. Ouais. Ok.
Et là, tout le monde m'a dit, mais t'es tarée, Marina, ça va pas. Parce que vraiment, personne fait ça en création chorégraphique, tu vois, c'est un truc.
Ouais, ouais.
Et ben, on l'a fait.
Tu peux expliquer ce que c'est que le chata à nos...
Le chata, c'est un son afro-caribéen, c'est une évolution du dancehall, je dirais. Et ouais, c'est pas des sons que t'entends sur scène dans les compagnies de danse, mais c'est... je pourrais vous le faire écouter, peut-être, hein, parce que vraiment, il est charmé, hein, ce son-là.
Tu crois qu'on peut le trouver?
Je peux vous l'envoyer.
Ouais, bah écoute, on pourra peut-être le faire écouter à nos auditeurs aussi. Et est-ce que tu peux me dire ce que la psychologue écoute? On a la chorégraphe qui écoute du chata, mais la psychologue...
Elle écoute la même chose.
La même chose.
Moi, franchement, j'étais psy comme je suis. J'étais psy en Air Max et... et d'ailleurs, ça m'a vachement servi parce que mes collègues éduques qui m'envoyaient des jeunes, ils leur disaient « T'inquiète, c'est la psy, elle est en basket, elle est jeune et tout. » Et ça a vachement facilité le lien. Mais finalement, c'est comme dans tout, dans la vie. Quand t'as cette image-là, un peu qui fait peur, un peu élitiste et tout, les gens, ils n'ont pas envie de parler avec toi. Donc finalement, non, là, c'est exactement la même personne.
C'est la proximité et le...
La simplicité.
La simplicité, ouais. D'accord. Et ta chanson « Totem », ça serait quoi?
Ça serait Rien à perdre de Luciano et Akash, parce qu'en fait, c'est vraiment la première par laquelle je suis rentrée dans le rap. C'est mon oncle, quand j'étais petite, hein, je crois que j'étais même pas au collège encore. C'était l'époque de To Be Free et tout, là, les Boys Band, Spice Girls, tout ça. Il m'a dit, Marina, là, tu es en train de prendre une mauvaise pente. Et il m'a offert le single J'ai pas de face de Akhenaton, qui parodiait un peu ce truc-là des Boys Band. Et la face B de ce truc-là, c'était ce son avec Luciano. Là, je suis tombée love du rap Luciano. J'ai fumé tous ces sons. Après, j'écoutais que ça. Tu sais, j'avais un Discman là, et j'avais deux CD. Après, c'était L'école du micro d'argent et Si Dieu veut de la FF. Un peu plus tard, il y en a d'autres qui se sont rajoutés. Mais je crois que pendant 2 ans, j'ai tourné avec ces deux CD. H24, mes parents, ils pétaient leur tête. En plus, les instruments, c'était des marteaux-piqueurs à cette époque-là. C'était pas mélodique comme maintenant. Mais du coup, ce son-là, il est trop important pour moi.
On l'écoute?
Allez.
J'ai rien à perdre, FF, rien à foutre, place et blouse, rien à terre. Troisième œil, rien à perdre. Paf la rage, rien à brère. Def don't sleep, rien à foutre. Karim le roi, rien à terre. Freeman, rien à perdre. Belzins, rien à foutre. Le ref, rien à perdre. Ayam, rien à terre. Les deux pieds sur terre, la tête pleine de terre. Rien à terre, rien à faire.
Avant je n'étais rien, un putain de chien, plein Heineken, sale face, dents en plastique, arrière pensée malsaine. Je me levais à 3h, quand même réveil dur, la face striée, des plis, des coussins incrustés dans ma figure tanguée. Dans une station de métro branleur invétéré, la RTM aurait pu me proposer un putain de boulot. Hormis que j'étais le pilier de ce spot, j'ai niqué la carrière scolaire de pas mal de potes. On était quand même des sacrés rêveurs, et les rêves brisés transforment les songeurs en braqueurs. Rien ne me faisait plus rire, seule la soif de survivre, le cash me faisait courir, partir un peu plus loin, la tête coiffée, plus tard d'un koufi, la rage dans le mic, entre deux repas de soufi, inutile torchon, j'aurais voulu crever, tuer, renversé en plein été sur mon vélo, hauteur ou crever, poumon fumigène, souffle, siffle en crise d'asthme, j'aurais dû en planter des mecs, j'aurais pas eu de spasme, l'eau a coulé depuis l'époque des polo frises, à celle des valstars envoyés dans les pare-brises, stéréo, 16 à gauche, à droite, scut de popo, le Walkman sur 10 m'a rendu sourd comme un pot. Les pattes au beurre patraque, armées d'une matraque. Un jeu rappé pour moi de 3, 4, 5 pour la Hayat. Pas de boîte, j'avais pas de lové. On s'incrustait le soir dans les mariages. C'était gratuit, y'avait du gâteau et à boire. De l'air pur du riff. Chaque fois que j'écris, je pense à Saïd Ali Sherif. L'armo, si l'on est ainsi, c'était écrit. La frustration m'a rendu aigri et j'ai maigri. Mentalité excessive, ça a pourrir. Si je ne peux t'avoir, quelqu'un de ta famille doit mourir. J'ai rien à perdre, même si je me fous dans la merde. J'ai rien à perdre, rien à foutre, rien à taire, j'ai rien à perdre. Même si je me fous dans la merde, j'ai rien à perdre, rien à foutre, rien à taire. Le clan des sans-droits,
jamais
que pas ça,
tu t'en bats les couilles.
Jusqu'à ce qu'ils viennent frapper chez toi. Le clan des sans-droits,
jamais que pas ça, tu t'en bats les couilles.
Jusqu'à ce qu'ils viennent frapper chez toi.
Le clan des sans-droits, Gadio, débarque chez toi en sans-droits Peugeot. Si je fais la fête, c'est que tout va mal dans ma tête. Normal, je m'endette et claque le fric, les gens me trouvent bête. Tous les week-ends, je rentre ivre, j'apprenais à vivre. Maintenant, je rentre ivre, tous les jours, je me contente de survivre. Aucune vue de la grande vie, j'ai eu du mal à suivre les cours de maths. Ras-le-bol de l'école et ses femmes profs. Les jours de fête ne me font plus marrer. Même bourré à la bière, Noël, Pâques, mon anniversaire, c'est pareil. Plus de suspense, sensation. Ma participation suffit pour faire plaisir aux proches. Ma famille, mes amis, ils le savent. Le sourire aux lèvres est rare. 5-6 pétards et le fou rire viennent tout comme le cafard. Tu captes ça, frère, écoute, la terre tourne. Ma tête tourne, la roue tourne. Chacun son tour, côtoie la scoumoune. Au refuge de venir vieux avant l'âge, c'est la routine pour mon entourage. Dans la merde, solidaire, on s'encourage. Faut me défoncer la mâchoire pour m'empêcher de parler sur instrumental. Pas le temps d'être sentimental, j'ai trop la dalle. J'emmerde les projets DSU déçus par le CIQ. Les élus peuvent se mettre leurs belles paroles dans le cul. Coincé dans les squats par le froid, les rêves voir le soir, la poisse s'acharne sur mes camarades et moi. La chance n'y vient ni part, je prends part aux parties de poker. Dans le quartier, mon bunker, le rat d'équerre plus que ce putain de joker. Je nagerai avec les femmes et un micro dans une piscine. Pas pour la frime, pour une paire de sèvres, un jean. Rouler dans l'or, connaître l'ordre, autre monde. Les mêmes viennent dans la merde, dans la tête, un désordre monstre. Les restos classes, c'est pas mon genre, préfère les snacks. Devenir prince, impossible, ma vie c'est ma musique dans les fnacks.
J'ai rien à perdre, même si je me fous dans la merde. J'ai rien à perdre, rien à foutre, rien à taire. J'ai rien à perdre, même si je me fous dans la merde. J'ai rien à perdre, rien à foutre, rien à taire. Le clan des sans-droits,
jamais que pas ça, tu t'en bats les couilles.
Jusqu'à ce qu'ils viennent frapper chez toi. Le clan des sans-droits,
jamais que pas ça, tu t'en bats les couilles.
Jusqu'à ce qu'ils viennent frapper chez toi.
9-7, rien à foutre, rien à perdre, rien à taire.
Marseille,
rien à perdre. Ranchano, le Sanra, Tentenza, Sabaza, comme ça. Le clan des sans-droits,
la liberté c'est la vie et la vie n'a pas de prix. Pour nos proches au paradis on
le clan des sans-droits, Marseille, place.
Rien à perdre.
Le clan des sans-droits,
rien à perdre.
Le clan des sans-droits, rien à foutre.
Nika, Nika.
J'ai une dernière question. La musique de la honte, c'est quoi? C'est laquelle pour toi?
La musique de la honte?
Ouais, genre, la musique que t'écoutes. Que t'écoutes, t'as honte d'écouter, ouais.
Je sais pas, aucune. Okay. Moi, j'assume. Ouais, non.
Tout?
Ouais, franchement. Est-ce qu'il y a un truc claqué que j'écoute?
La chanson de l'Archouma.
Bah, franchement, non, j'en ai pas.
Il y en a pas?
Non, parce que. Tu vois ce truc, genre le fait d'écouter des raps vraiment, des raps nouveaux, des trucs dont on dit, tu sais, c'est les paroles, c'est pas ouf, nan. Moi, j'assume parce que je trouve que ça fait partie d'une culture populaire que j'aime et que je revendique. Donc, non, j'ai pas de son de la honte. Et par contre, quand j'entends celui-là de rien, ça fait un moment que je n'avais pas écouté Rien à perdre, je me rends compte à quel point ce son, il m'a construite. Parce que moi, c'est, mon mental, c'est celle-là. C'est celle, rien à perdre. Et souvent, on me dit, les chorégraphes, ils me disent ça, t'es courageuse d'aller, de porter ces problématiques-là et tout. Et moi, je leur réponds, mais courageuse de quoi? Moi, j'ai rien à perdre. Si ça marche pas, je m'en bats les couilles. Moi, je fais ce que j'ai à faire. Tu prends pas. Et en fait, vraiment, ça part de là. Tu vois, ce truc de rien à perdre, tout droit. De toute façon, on a déjà rien. On a toujours fait avec rien. Donc, vous pouvez nous enlever quoi, finalement?
Merci. On va continuer sur de la musique pour enchaîner sur la dernière partie de l'émission. Et ensuite, on parlera un peu d'une ville qu'on connaît bien tout ici.
Colline. Lorsque la nuit tombait, étalant son voile noir sur la cité, sa robe scintillait de milliers de lumières oranges. Ouvrez les yeux, vous êtes à Marseille.
Je suis de l'époque où cette ville a connu tant de peines, où sa jeunesse s'envoyait du rêve dans les veines. Lorsque les vrais avec leurs poèmes menaient les chrysanthèmes, mais que les grands baladaient les fers dans les vestes. Fossé ancré dans mon ADN, claquette des KTM. On fait le monde assis sur le capot de la BM. Coincé entre mépris, des poches gonflées de thunes et les putes insipides des poufs qui se font gonfler le cul. Je suis un enfant des crues.
Bon, tu auras compris, Marina, on va parler de notre cité phocéenne de Marseille. Quel est ton rapport avec Marseille? Tu es marseillaise pure souche? T'es née ici?
Je suis pas née ici du tout, par contre, j'ai toujours été marseillaise. Ça me fait bizarre de dire ça. Mais justement, de par comment je suis rentrée dans ce rap marseillais super jeune, parce que moi, j'étais dans le sud-ouest, j'ai d'abord été à Rodez, après j'étais à Toulouse, au Mirail, et on m'a toujours appelée la marseillaise.
Ah bah tu vois.
Et donc, je faisais beaucoup d'allers-retours aussi avec Marseille par rapport à la danse, par rapport à la famille, des amis, tout ça. Et c'est aussi pour ça que cet échec à l'entrée de l'école de danse, tu vois, parce que pour moi, c'était enfin, ah, je vais pouvoir venir habiter à Marseille. Et donc, ça a été non. C'est pour ça que ça a été dur aussi, tu vois. En fait, mais moi, je savais que ma vie serait ici depuis le premier jour.
Si tu devais, je sais pas, dire trois mots... qui décrirait cette ville, ce serait lesquels?
Ouais, ça serait plus, tu sais, la citation, je sais plus comment il s'appelle, Blaise Sandard, un truc comme ça, qui dit Marseille appartient à qui vient du large. Bah, moi, je me sens comme ça. En plus, tu vois, moi, d'étant d'origine portugaise, on a ce rapport à l'océan, à la mer, à la migration. Et en fait, tout simplement, tu vois, pour moi, c'est une ville où j'ai mis un pied, où je me suis sentie chez moi tout de suite.
Et Marseille est très présent dans tes œuvres. Tu as produit notamment une trilogie de spectacles autour des quartiers populaires. Je crois que tu l'as évoqué tout à l'heure avec Asmanti et également Bac Nord, donc en réaction du film réalisé par Cédric Riménez. En quoi finalement Marseille ça t'inspire? Et j'ai l'impression aussi qu'il y a cette volonté un peu aussi de se débarrasser des clichés qu'on peut avoir sur les quartiers populaires.
Ouais, en fait... Marseille, vraiment, pour moi, c'est une ville qui fait partie de mon identité culturelle, tu vois, de par ce rapport au rap marseillais, de par le temps que j'ai passé ici. Et donc, c'est d'une manière assez évidente que ce soit présent dans mes créations. Et comme moi, j'ancre mes créations dans le réel et dans mon réel, comme je suis ici, ben forcément, on parle des gens d'ici, mais pas que. Et c'est drôle parce que Marseille, en fait, elle est... c'est presque symptomatique d'une image des quartiers, mais de tous les quartiers. Tu vois, ici, on parle des quartiers nord de Marseille, mais finalement, la réalité du Mirail à Toulouse, là où moi j'étais, des quartiers parisiens, des quartiers de Medellin, c'est la même chose. Mais Marseille, elle a encore plus ce stigmate, tu vois, des quartiers nord. Ce mot, les quartiers nord. Alors qu'en plus, des fois, tu vois, les mêmes choses, elles se passent dans les quartiers sud, mais c'est pas grave, il faut quand même dire quartier nord, tu vois ce que je veux dire. Et je sais pas si j'ai répondu à ta question, du coup.
Oui, je pense que tu y as déjà bien répondu. Ouais. Est-ce qu'il y a des projets que tu portes actuellement, que tu aimerais nous partager à Marseille et qui sont encore inspirés largement de notre ville?
Ben, là, il y a... Déjà, Bac Nord, c'est toujours en tournée. Bac Nord, sortait les guitares. C'est une pièce qu'on joue dans plein d'endroits, en région parisienne, en prison, etc., qu'on recrée avec les habitants d'autres quartiers. Mais donc voilà, là il y a l'ouverture du Festival de Marseille avec Manifeste, mais ça c'est pas un projet que j'ai construit moi, c'est le Festival de Marseille qui a fait appel à moi pour chorégraphier cette manifestation avec 450 minots de Marseille. Donc ouais, bah c'est Marseille, quoi. On va laisser la place, on va les laisser parler un peu. Ils ont construit des slogans, donc ils arrivent avec des revendications qu'on va aller poser à l'hôtel de ville sur cette ouverture pour le festival. Donc c'est pleinement marseillais encore. La créa qui arrive ensuite, elle s'appelle Nidal dedans dehors. Et c'est une créa qui va être avec un danseur professionnel et des détenus de la prison de Luynes. Donc bon, on reste dans le secteur. Et voilà.
Et très participatif en plus à chaque fois. Pour le coup, c'est porté aussi par les habitants de Marseille.
Ouais, ben Asmanchi, c'était qu'une équipe de pros. La Cuenta aussi, parce que je t'ai pas parlé de La Cuenta, mais La Cuenta, c'est la troisième pièce de la trilogie. Et La Cuenta, elle parle des narcomicides. Et on l'a faite en 2023. On a mis au plateau une fleur pour chaque victime de narcomicide à Marseille. Et ça, c'est inspiré d'une action qu'on faisait dans les quartiers de Medellín. Justement avec ces collectifs qui avaient pour slogan que rien ne justifie l'homicide et que chaque vie compte. Et donc, tu vois, naturellement, pour moi, en fait, on parle d'une ville là où on a eu beaucoup de morts. Et c'est des morts qu'on remet à zéro à chaque janvier, en plus. Tu vois, je pense qu'on ne se rend pas compte de l'ampleur du phénomène ni du post-trauma dans lequel se trouvent nos jeunes. Enfin moi, j'interviens dans les écoles, j'interviens dans les collèges et tout le monde connaît quelqu'un qui s'est fait assassiner. Tout le monde a déjà entendu le bruit des calaches. Et je trouve que l'engagement des institutions culturelles, si on parle de ça, puisque c'est dans ça que je travaille, mais pas que d'ailleurs, il est largement insuffisant sur ce thème-là. Donc c'est assez naturellement que moi, j'ai eu envie d'en faire quelque chose. Déjà, de parce que ça m'a touchée personnellement. Donc forcément, en tant qu'artiste, ben, c'est aussi thérapeutique pour moi de parler de ça et de parler de résilience, parce que dans cette pièce, c'est de ça qu'on parle. Et aussi d'interpeller Marseille dans son ensemble, dans le sens où nos minots qui meurent dans les quartiers nord, c'est les minots de tout le monde, c'est pas juste les minots des quartiers, c'est les enfants de notre ville qu'on perd et qui nous manquent à tous. Et puis ça voilà, on parle de Marseille, mais c'est quelque chose qui se produit partout. Donc pour moi, c'est indissociable. En fait, pour moi, ne pas parler de ces choses-là quand on parle de vie ou de mort de nos jeunes, c'est extrêmement lâche. Et j'en veux beaucoup à tous ceux qui ne font pas ce job-là. Parce qu'on parle de vie, de gens, et que c'est notre responsabilité à tous, normalement, de donner envie à nos jeunes de faire autre chose que d'aller se jeter dans les bras du réseau, et tout en sachant qu'il y a la mort au bout.
Merci Marina, en tout cas c'est des belles actions portées et également un beau message. Peut-être pour clôturer, cette partie, ouais. Je donne ouais. La parole du coup
à Gaël. Est-ce que tu as retrouvé un peu de la Colombie dans Marseille, hein, indirectement?
Ce truc commun qu'il y a à la Colombie et à Marseille, c'est qu'on fait les choses. C'est-à-dire qu'on n'attend pas d'avoir les moyens, le chemin tracé, parce que c'est long, en fait, les chemins institutionnels, administratifs, etc., c'est long, c'est compliqué, c'est souvent soldé par des échecs, et ce truc-là, qui est plus encore en Colombie, mais qui est un peu à Marseille aussi,
du court-circuit,
ouais, c'est on va faire, en fait, on va tout droit, on fait, et on trouve, tu vois, on rentre pas, si on rentre pas par la porte de devant, on rentrera par la fenêtre,
mais on y va,
mais on y arrivera,
ouais.
Ok, merci. Alors Marina, on t'a donné la définition d'astragale. Alors, est-ce que tu es une astragale ou pas une astragale?
Ah bah, je crois. Hein.
Bah ouais, hein.
Je crois.
Ouais, j'en crois aussi.
Indestructible, je sais pas, mais en tout cas, pour le moment, on résiste. On résiste, on tient bon. Et en équipe aussi, parce que là, on parle de moi, mais j'ai des grosses équipes avec moi. Et si je fais tout ça aussi, c'est parce que j'ai des vaillants qui m'entourent et qui remontent les manches avec moi. Et dans ces environnements-là, en plus hyper masculins et tout, j'ai de la chance que ces gars-là et ces meufs-là sur d'autres projets me suivent, me font confiance et me... Comment dire ? Ça, c'est un peu mes piliers. Les moments où moi, je pourrais m'effondrer, ben, c'est eux qui tiennent et vice-versa. Et c'est comme ça qu'on avance. C'est vraiment, s'il y a un truc sur lequel j'ai envie d'insister, moi, dans mon projet de Hillel, c'est la notion du collectif. Et ça aussi, ça vient de ce que j'ai appris à Medellín beaucoup. C'est en fait la mise en mouvement, quand elle est collective, on ne sait pas forcément qu'est-ce qui va se passer, mais il va se passer des choses. Et quel que soit le résultat, finalement, le process de construire un truc ensemble, bah, c'est déjà une réussite.
Bah, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir répondre à nos questions, merci, et de nous parler de toi et de ton parcours. Merci à Fréquence Mistral de nous permettre d'enregistrer cette chronique. On va finir l'émission par un morceau que tu as choisi aussi. Marina, c'est quoi ce morceau ?
C'est un morceau, il s'appelle Zenzad, hein, et c'est du rap libyen. Et, parce qu'en fait, moi, ce sur quoi j'insiste beaucoup, tu vois, avec les jeunes et tout, c'est sur la créativité de nos cultures populaires. En fait, on ne se le dit pas assez, mais le rap, c'est devenu la musique la plus écoutée au monde quand même. C'est un truc qui vient de chez nous. Alors, ça vient de New York et tout. On s'en fout. Au petit de Marseille, je leur dis, ça vient de chez nous. Tu vois, c'est notre culture, c'est notre façon de faire. Et je trouve que c'est important là, de porter le regard un peu ailleurs qu'aux États-Unis où la culture hip-hop, elle est quand même très commerciale, etc. En fait, le rap partout dans le monde, il fleurit et il porte son sens initial qui est de permettre à chacun de se raconter, de revendiquer et de trouver une place. C'est ça qui compte pour moi et je trouve que ce morceau-là, il est vraiment à l'image de ça.
Alors on l'écoute et belle journée à tous.
Merci Marina.
Merci. Merci.
Zinzana. بين حيوط ندور في زنزانة دافن ذكرياتي في شبانة ميلو منطيحو مش شوبانة مش شوبانة لا مش شوبانة ديما القدام ماشي وخلي اللي يصير يصير ماضية في شبانة فات الأوان وجي وقت نشوف المصير شوف المصير بخريطة شكون اللي ساعدني أظن ساعدني معظم الناس دي مريضة حرف عقول مكريطة مخي اللي مكلفني تخمة مزهرني في راسي تسونامي يماش وانا في دوام التفكي حالة محتاجة علاج نفس المرارة تمر سنيني ما لقيت الشي داويني دوت واتيني يا I'm building ability داش كاد احمل رياليتي يا يا وشغل انفينيتي في دي سيجار وفي ليلي نسمع ميليدي يا فيلز بكلمي واللي قاتل قلبي دازن فيلمي يا يا ما عندي شيني من تبع في حلمي نخلص في تمني دنيا دروس نسمع في اصوات الجروس نغلط نصلح نعود نفوس شوفني كم جنح طاير فوق نفوس ما عنديش لوز في قاموسي ما تعرف خصامي زبروسي وقت اللي ترى تنجيبو كؤوس رد اللي نراهم فيك من كابوسي بين حيوط ندور في زنزانة دافن ذكرياتي في شبانة ميلو منطيحو مش شوبانة مش شوبانة